Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, tiens, un spectacle autour de Beethoven et un jeu vidéo très poétique. Nous sommes vendredi 13 et on va parler de Screaming et non pas de streaming. Haha, humour. C'est une nouvelle plateforme qui se lance avec seulement des films d'horreur et de vampires. Ce sera notre infomédia. Ensuite, n'en déplaise à Rachida Dati, nos invités n'ont rien de politique.
On n'est pas à Koh-Lanta, là.
Eh bien si, on sera presque à Koh-Lanta puisque je recevrai Denis Brognard qui présente le jeu d'aventure qui vient de redémarrer sur TF1. Quoi de neuf ? Eh bien, saison 26. Ils ont instauré quelque chose qu'ils n'avaient jamais testé auparavant, vous l'entendrez. Enfin, le comédien Benjamin Lavergne, il incarne Scapin dans Les Fourberies avec une mise en scène déjantée de Denis Podalydès. Et vous l'avez sûrement vu en magicien raté au dernier César, il était le seul comédien nommé pour un rôle comique. Hélène Manarino nous fera son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au journal des médias, Cyril, qu'est-ce que vous avez au menu ce matin ?
Ce matin, on parle vélotypie. Ce matin, on parle de sport qui disparaît de nos écrans. On parle d'un doc qui met en lumière des femmes de l'ombre. Et on parle de Tom Leb qui devient So French.
Et vraiment, restez avec nous parce que vous aurez toutes les infos sur le prompteur d'hier. En même temps que le président Macron parlait, que se passait-il ? Ça agitait Twitter, toute la toile, notre équipe également. On a toutes les infos. Cyril, on démarre, c'est la tradition avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision, en plus évidemment de l'allocution du président de la République.
On commence et par TF1, ils ont regardé Profilage. Près de 5 millions de téléspectateurs étaient devant la une, ça représente 24% de part d'audience. Deuxième position pour Envoyé spécial sur France 2 avec 2 300 000 personnes. Troisième position pour le film De l'autre côté du périph sur M6, suivi et regardé par 2 millions de téléspectateurs. Enfin, deux autres scores à vous signaler, celui de France 3 et son film La Ritournelle, suivi, regardé par 1 700 000 Français. Et un bon score pour la spéciale Balance ton poste de Cyril Hanouna sur C8, qui a dépassé le million de téléspectateurs.
Et évidemment, le score qu'on attend, c'était hier à 20h, le président Macron sur toutes les chaînes, déjà aux 20h de TF1 et d'Antenne 2, de France 2.
D'Antenne 2. L'ORTF, monsieur,
s'il vous plaît.
Alors, le premier score que je vous donne, c'est les deux journaux télévisés. Celui de TF1 a réuni 8,5 millions de téléspectateurs. Celui de France 2, un peu plus de 7 millions. Donc à eux deux, ça représente 15,5 millions de téléspectateurs.
Déjà, c'est un score énorme.
Déjà, ce sont des très gros scores, effectivement. En tout, et là, c'est avant les scores des chaînes d'information, 22 760 000 téléspectateurs ont regardé Emmanuel Macron hier sur l'ensemble des chaînes de télé. Ça représente plus de 80% du public qui était à ce moment-là devant un écran de télévision. Voilà. Ça, c'est pour l'allocution.
Culture Média.
On commence maintenant ce journal des médias, on ne change pas de sujet, c'est l'allocution hier du président de la République avec une innovation que j'ai un petit peu teasée, qui a beaucoup, beaucoup fait parler.
Si vous avez regardé cette allocution, vous avez évidemment vu les sous-titres qui s'écrivaient en direct à mesure que le chef de l'État s'exprimait.
Quand même, c'était pas ça. Mais c'est approximatif. Justement, c'est approximatif.
Mais comme c'est la première fois qu'un tel dispositif était en place, on a cherché à savoir le pourquoi du comment.
Il faut quand même raconter ce qui se passait pour qui ne l'a pas vu. C'est qu'en fait, pendant que le président Macron parlait, on voyait les mots qui s'inscrivaient et des fois ça partait, ça revenait, ça redémarrait, il y avait des fautes, c'était corrigé. Enfin, on a l'impression que ça flottait un peu.
En fait, ce qu'on sait, c'est que c'est l'Élysée qui a voulu mettre en place ce système de sous-titrage en direct. La personne qui tapait était à l'intérieur du car régie, donc en dehors de l'Élysée, et utilisait un logiciel qu'on utilise également dans le spectacle vivant, c'est ce qu'on appelle de la vélotypie. Voilà, c'est une technique. Je vous explique, la personne derrière son clavier tape des syllabes et non pas des lettres, ce qui peut expliquer que quelques erreurs se soient glissées dans le texte qui apparaissait à l'écran.
Mais alors, Cyril, pourquoi le président Macron, qui travaille dessus depuis 48 heures, n'a pas donné son texte en avance pour éviter ces atermoiements, ces hésitations, ces coquilles ?
Eh bien, parce que le texte final n'a été entré sur le prompteur du président qu'au tout dernier moment, juste avant le direct, et parce qu'Emmanuel Macron voulait se laisser la liberté de sortir de son texte, ce qu'il a beaucoup fait hier soir, m'a dit une des personnes chargées d'organiser cette allocution. Reste à savoir si ce procédé sera réutilisé à l'avenir. On vous l'avait dit, ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. À l'Élysée, en tout cas, on assume d'avoir choisi cette vélotypie pour ce discours très attendu.
Et puis après Emmanuel Macron, c'est au tour d'Édouard Philippe de prendre la parole aujourd'hui.
Oui, le Premier ministre sera aujourd'hui l'invité de Jean-Pierre Pernaut pour son journal de 13h. Un bon coup pour TF1 qui avait déjà reçu Édouard Philippe récemment pour parler de la réforme des retraites. C'était il y a tout juste 2 semaines.
Et puis toujours sur le sujet du coronavirus, les chaînes vont vont devoir continuer d'adapter leur programmation.
On l'a appris, cette nuit, le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison en Australie est annulé. Un sale coup pour Canal+, qui diffuse la saison de F1. Et ce matin, la Ligue professionnelle de foot devrait à son tour annoncer la suspension des matchs du championnat de France de foot, ce qui va là encore obliger la chaîne cryptée à modifier sa grille. Toujours rayon foot, la Fédération française a elle aussi décidé de suspendre ses rencontres. Les deux prochains matchs des Bleus, France-Ukraine et France-Islande, qui doivent se jouer les 27 et 31 mars, sont clairement menacés.
On les annonce à guichet fermé, donc ils peuvent ne pas avoir lieu.
Ah, ils sont à huis clos de toute façon.
D'accord.
Donc, voilà, la question se pose même plus sur les spectateurs,
d'accord.
Mais se pose du coup pour les téléspectateurs. Et c'est d'ailleurs, en fait, au-delà des matchs de préparation des Bleus pour l'Euro, c'est d'ailleurs tout l'Euro de foot qui est menacé. Les instances européennes se réunissent mardi pour décider de son report à l'année prochaine. L'UEFA qui voudrait décaler à la fin de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa à cet été. Là encore, de quoi bousculer la programmation de TF1 et M6 qui ont acheté les droits de l'Euro de football.
Et pas peu cher. Cyril, une soirée spéciale samedi sur Public Sénat à nous signaler.
Femme de ménage, vous l'avez, femme de ménage,
ouais.
Femme de ménage. Public Sénat consacre sa soirée de samedi à ces dames souvent invisibles lorsqu'elles font leur travail, parfois aussi regardées de haut. Mais cette fois, les choses sont différentes. Le réalisateur du documentaire a décidé de suivre le parcours d'un collectif de femmes de ménage qui se lancent dans le projet d'une pièce de théâtre. Guillaume Estivi nous explique les raisons de son projet. Il est au micro de Louise Bernard.
Je trouve que ça regroupe pas mal de problématiques qui agitent un petit peu notre société. Les conditions de travail des précaires, l'invisibilité, la place des femmes aussi, l'immigration. Enfin voilà, il y avait pas mal de thématiques à aborder. En prenant un pas de côté, parce que justement cet atelier théâtre me permettait d'aborder ça pas avec lourdeur, quoi, avec une certaine légèreté. On voit bien la différence entre la solitude qu'elles ont dans les cages d'escalier, même au niveau du son, etc. Et les rires qu'on peut entendre dans les ateliers théâtre.
Cette pièce de théâtre, c'est bien sûr une manière de tenter de faire passer ces femmes de l'ombre à la lumière et aussi de les pousser à s'exprimer.
C'est pas le fait de passer le balai qui les embête, c'est surtout le regard que les gens peuvent porter sur elles en les croisant dans la cage d'escalier. Le regard ou bien le non-regard, puisqu'elles sont parfois assez souvent ignorées. Et le manque de respect par rapport à leur travail, quand les gens marchent dans de l'eau, etc. Donc on sentait qu'il y avait un vrai malaise et du coup, la pièce de théâtre était un moyen justement pour elles de parvenir un peu à se mettre en avant, ce qu'elles n'ont pas souvent l'habitude de faire. Et de raconter leur vie à travers des petites scénettes humoristiques, parce qu'en fait, c'est à partir de leur vie que l'auteur a écrit ces scénettes-là, pour ne pas blesser ou de ne pas arriver frontalement et de dire « voilà, regardez-nous, respectez-nous », mais d'une manière un petit peu détournée, à faire passer leur message.
Guillaume Estivi a suivi ce groupe de femmes durant 6 mois et le résultat est vraiment réussi. Ces femmes de ménage sont drôles, touchantes. Pour les découvrir, ça se passe samedi à 21h sur Public Sénat, la chaîne du canal 13 de la TNT.
Alors on ne sait pas encore si l'Eurovision aura bien lieu, mais on sait déjà que notre représentant français est, comme on dit, dans une situation compliquée.
On ne doit pas se mentir, notre candidat Tom Leb n'a pas connu un accueil dithyrambique depuis qu'il a été choisi par France Télévisions. Pire, son titre, The Best in Me, a même carrément été critiqué par le ministre de la Culture à cause de son anglais. Eh bien, que Molière se rassure, Tom Leb va sortir une nouvelle version de sa chanson. Écoutez un peu ce que notre champion nous révèle sur Twitter.
Salut à tous. Je voulais simplement vous annoncer qu'il y a une nouvelle version du morceau The Best in Me, qui est une version un petit peu plus acoustique. C'est un nouvel arrangement. Et qui dit nouvel arrangement, dit nouveau titre. C'est pour ça que la chanson s'appelle Mon Allié. Et c'est ce que je chanterai le soir de l'Eurovision. J'ai hâte de vous le faire découvrir et j'espère vraiment que ça vous plaira.
Et voilà, bye bye The Best in Me et welcome mon allié, mais comme Tom est un petit coquin, il n'a pas pu s'empêcher.
Everybody, there is a new version of the song The Best in Me. It's a little more acoustic version of the song, that's why it's got a new title and it's called Mon Allié. I will perform this at the Eurovision Song Contest and I hope you'll like it. Bye.
Yes, we ought to like it. Il tient à son English, Tom. Bon, en tout cas, cet allié, on ne l'a pas encore entendu, mais on espère que ça lui permettra de remonter sa cote chez les bookmakers.
Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve lundi pour un nouveau Journal des médias. Bon week-end.
Et on va frissonner dans l'infomédia du jour avec le lancement aujourd'hui, vendredi 13, de Shadows, la première plateforme de films d'horreur en streaming. On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est leur Philippe de l'info média du jour.
Aujourd'hui, vendredi 13, est lancé Shadows avec un Z à la fin, la première plateforme de streaming, jeu de mots, comprenez, une plateforme de streaming consacrée aux films d'horreur, aux thrillers, aux films fantastiques, à la science-fiction, bref, tout ce qui fait peur, tout ce qui fait crier, donc Scream. Pour en parler, nous sommes avec Julien Vin-Ramaroni, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes président de VOD Factory qui est à l'origine du projet. Pourquoi lancer cette plateforme? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de films d'horreur sur Netflix ou Amazon Prime?
C'est une très bonne question. Nous, on pense que vraiment, il n'y avait pas assez de films de genre, qu'on appelle les films de genre, ouais. Les films d'horreur, les films de science-fiction, les films fantastiques, sur toutes ces plateformes, qui sont des plateformes généralistes. Et notre envie, notre frustration de base, c'est ça qui nous a amené à envisager ce projet de Shadows.
Pas assez, c'est un euphémisme ou vraiment il y en a très très peu?
Non, il y en a très très peu. Et puis
c'est quoi,
ça se compte en dizaines? Oui, ça se compte en dizaines. Nous, quand on avait regardé à l'origine, maintenant ils ont un petit peu étoffé leur line-up, mais quand on avait regardé à l'origine Netflix, il y avait une dizaine de films d'horreur. Alors que nous, aujourd'hui, on arrive avec un line-up de 150 films au lancement qui va s'étoffer au fur et à mesure des mois.
Si je me permettais, je dirais quand même une dizaine de films seulement, c'est une horreur. c'est de la vidéo à la demande par abonnement. Combien ça coûte? Comme ça, on règle cette question-là.
Ça coûte 4,99€ par mois. C'est un prix qu'on a voulu assez abordable, une offre de complément, on va dire.
Oui, c'est moitié moins que les plateformes.
À peu près moitié moins que les offres de référence au marché, ouais, c'est ça.
Et par an, on peut s'abonner à l'année?
On peut s'abonner à l'année, ça coûte un peu moins cher quand on fait preuve de fidélité, c'est souvent comme ça, donc c'est seulement 49€ pour une année.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir alors sur Shadows? C'est quoi votre catalogue?
Le catalogue, c'est un mélange de films qui ont été vraiment sélectionnés par des gens qui sont passionnés du film d'horreur, passionnés du film de genre. Donc on va retrouver des pépites, les grands classiques, on a un peu de mal à trouver, des films de Joe Dante, de George Romero, des films de John Carpenter.
Voilà. Ouais. Là, vous parlez aux initiés, dites-nous les films qu'ils ont fait. C'est quoi? C'est La Nuit des Morts Vivants? C'est quoi? Moi, je suis pas du tout connaisseur, mais quand même, je connais ça.
Ça parle quand même un peu à tout le monde.
Dites-nous les titres de films.
Donc c'est ça, c'est La Nuit des Morts Vivants. C'est des films. On va trouver un film d'Alexandre Aja qui s'appelle Piranha 3D, qui est un film un peu plus récent, qui a atteint un rang classique.
Alexandre Aja, le film qui m'a le plus fait peur de ma vie, c'est La Colline à des yeux.
La Colline à des yeux.
Vous l'avez?
On l'a pas encore, mais
mon Dieu, c'est terrifiant. C'est le seul film qui m'a fait peur. Je savais que c'était un film et j'étais comme ça devant.
Ouais, mais voilà, c'est exactement le genre de films qu'on va retrouver sur la plateforme, des films qu'on va pas du tout trouver ailleurs, par ailleurs.
On va vous faire entendre un peu d'ambiance de ce qu'on peut trouver sur Shadows.
Je vous interdis d'entrer chez moi!
Je suis malade, Sam. Je vais très mal. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas.
Papa.
C'était riant, c'était frais. C'était un extrait de quel film?
C'est un extrait d'un film qui s'appelle Babadook, un film fantôme, comme on peut un peu l'entendre dans cette bande-annonce. Un classique du genre.
Sur le coup de 2h du mat, si vos enfants dorment pas, ça les calme bien. Ouais. Blague à part, vous êtes inspiré des Américains pour votre plateforme. Êtes-vous parti? Comment vous avez travaillé?
En fait, il y a une plateforme américaine qui s'appelle Shudder, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et qui s'est développée en parallèle de Netflix, qui nous a un petit peu inspiré effectivement pour ce projet-là et qui nous a confirmé dans l'idée qu'il y avait vraiment un public très 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 mobilisé, vraiment une communauté de fans très...
Ils ont combien d'abonnés, eux?
Ça se compte en millions, je n'ai pas le chiffre exact récent, ils ne communiquent pas tout le temps, mais c'est plusieurs millions.
Et vous visez combien d'abonnés?
Nous, on est un peu plus modeste, on est français, on a des moyens moins importants, mais si on pouvait atteindre quelques dizaines de milliers de clients en France, on serait déjà très très content.
Quelques dizaines de milliers, vous êtes rentable à quel seuil, pardon?
Oui, on est une petite dizaine de milliers, on devrait commencer à rentrer dans nos frais. Ouais.
Sur quoi vous fondez pour être aussi enthousiaste? Et je ne vous le reproche pas, au contraire, vous avez sondé les abonnés, comment vous faites?
Alors on a fait plusieurs choses. D'abord, nous, on a une croyance un petit peu de base qui est que les offres généralistes qui sont en train de se développer sont en train de changer complètement l'usage des gens. Maintenant, tout le monde veut consommer à la demande et les gens se détournent un petit peu des médias plus traditionnels comme la télévision. Et on pense que les généralistes ne font pas complètement leur métier d'adresser tout le monde. Donc ça, c'est un peu le postulat de base. Et on a eu depuis très tôt cette intuition que le film d'horreur était pas très très bien servi par les offres généralistes. Et pour le tester, on a procédé à ce qu'on appelle un financement participatif sur la plateforme Ulule, où on a un petit peu testé ce concept auprès de la communauté pour un petit peu vérifier leur niveau d'attente et savoir si on était dans la bonne direction. Et ça a très très bien marché. On a fait quasiment 400% de notre objectif sur Ulule. On commence aujourd'hui notre aventure avec déjà un millier d'abonnés qui sont déjà pré-abonnés, qui ont pré-acheté leur abonnement.
Alors, puisque vous en parlez, on va en parler maintenant. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Et qu'est-ce qu'on retrouve une fois qu'on s'est abonné et qu'on a mis un petit peu de sous chez vous? Racontez.
Une fois qu'on s'abonne...
Combien on peut mettre alors? Sur Ulule.
Alors sur Ulule,
c'est fini, c'est terminé. Maintenant, on peut plus que s'abonner.
Voilà, on peut seulement s'abonner. On peut aller juste sur le site de Shadows et s'abonner depuis ce matin. Depuis ce matin, et c'est là qu'on va retrouver sur son ordinateur et très vite sur tous ces devices, en particulier sur sa télévision, tous ces films-là qui sont un petit peu des petites pépites du film de genre.
Il y a un vrai marché à prendre. Le DVD, ça marche encore ou c'est fini le DVD ?
Alors le DVD, c'était le marché un petit peu historique de ces films-là.
Bien sûr.
Il y avait beaucoup de
films. Non, c'était
qui...
le VHS, le marché historique.
Historique, historique. Alors,
je dis ça parce que j'ai dit Antenne 2 tout à l'heure, qui m'a échappé.
Oui, effectivement, c'était la VHS. C'était des films qui souvent sortaient pas vraiment en salle en France, qui parfois sortaient en salle aux États-Unis, qui est quand même un plus grand pays, hein, et qui avait du mal à trouver une distribution en salle en France, dont le débouché naturel était effectivement le
DVD.
Mais
là, le marché du DVD, ça existe encore ou c'est fini, c'est mort ?
Ça s'est complètement écroulé. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, pour plein de films qui trouvaient un marché d'aficionados, de passionnés sur le DVD, c'est en train de disparaître. Et nous, on est en train de proposer une alternative à ça, du coup.
D'accord. Et puis, il y a d'autres alternatives parce que vous ne vous occupez pas que de films qui font peur. Il y a plein de choses, et notamment de films et d'une chaîne un peu dédiée au LGBT.
Exactement.
On va parler de ça avec vous juste après ceci.
Shadows est la première plateforme de streaming, consacrée aux films d'horreur. Elle est lancée aujourd'hui, vendredi 13. N'ayez pas peur, on revient pour en parler dans un instant sur Europe 1.
Viens jouer avec nous, à jamais.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Vous aimez les films d'horreur ? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire le plein de frissons et d'adrénaline grâce à la première plateforme de streaming de films d'horreur. Elle s'appelle Shadows, des films d'horreur. Mais pas que. On en parle avec Julien Vin-Ramadori, président de VOD Factory, qui est à l'origine du projet, Philippe.
Combien de films au catalogue de Shadows ?
Donc là, aujourd'hui, qui est notre jour de lancement, on en a à peu près 150. On va en rajouter une vingtaine par mois pour arriver à une vitesse de croisière d'à peu près 200-250.
Et puis, j'ai une question d'actualité. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir Contagion de Soderbergh dans votre catalogue ? Je vous pose la question parce que c'est un film de 2001. Ce film connaît un nouvel engouement sur les plateformes. C'est l'un des 10 films les plus téléchargés en ce moment, à côté de Joker, Il était une fois Hollywood ou Parasite. Pourquoi ? Parce que ça préfigure, ça préannonce, ça prophétise la crise du coronavirus.
C'est vrai, c'est un très bon film. Ça raconte l'histoire d'un virus né en Chine dans un marché... avec des chauves-souris
des petits cochons,
c'est pas un pangolin, c'est un cochon, je crois, dans l'histoire, mais ça raconte l'histoire d'une contagion et d'une pandémie mondiale.
Bon, et vous l'avez sur Shadows ?
Alors malheureusement, on l'a pas sur Shadows, mais c'est exactement le genre de film qu'on peut trouver sur
Shadows.
Oui, on a d'autres films.
Alors oui, pour les fans de coronavirus, qu'est-ce qu'il y a sur Shadows ?
On a d'autres films qui parlent de virus. On a un film japonais notamment qui s'appelle Virus. On a un film qui va arriver dans quelques semaines qui s'appelle Pandémie. Donc on est nous aussi pas mal dans cette actualité qui est un peu triste, hein, qui est un peu qu'on subit, mais qui nous permet aussi de prendre du recul lorsqu'on voit ces films et de comprendre que tout ça était prévisible et explicable qu'il faut rationaliser un petit peu tout ça. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous avez fait des commandes de films en fonction de l'actualité ou pas du tout ? Ces films étaient déjà prévus, qu'ils soient acquis à votre catalogue ?
Oui, ces films étaient déjà prévus. C'est un projet qu'on prépare depuis un an et demi. Donc
que vous ne soyez pas accusé d'opportunisme. Depuis combien de temps existe VOD Factory ?
Depuis 6 ans. Nous, notre métier, c'est ça, c'est les plateformes de VOD, donc c'est un projet qu'on porte depuis des années.
Mais vous étiez là avant ou après Netflix ?
On était là avant Netflix en France. Notamment, il y a une plateforme dans le giron du groupe qui s'appelle Spicy qui a été lancée avant Netflix en France, qui est une plateforme de documentaires et de reportages.
Dont on a beaucoup parlé ici.
Dont vous avez beaucoup parlé.
Mais qui n'est pas du tout centrée sur la fiction, contrairement à ce que vous faites là.
Pas du tout.
Et puis, vous avez également lancé en novembre Queer Screen, l'écran queer, je traduis en français, une plateforme de streaming destinée à la communauté LGBT. Comment ça marche et combien d'abonnés ?
Alors, c'est un peu tôt, on vient juste de lancer là, à la fin de l'année dernière, on ne communique pas encore sur notre nombre d'abonnés, mais on est très content de l'accueil. D'une communauté, la communauté LGBT, hein, qui se sent pas assez représentée dans les médias généralistes et traditionnels et qui, avec cette offre-là, trouve là aussi une offre de films. Là, c'est plus de 200 films qui sont déjà en ligne.
Films où il y a également des émissions, des reportages, des documentaires.
Il n'y a pas encore tout ça. Il y a un tout petit peu de documentaires. Il y a pas mal de séries quand même déjà. Et on va élargir l'offre. Mais c'est essentiellement le socle de l'offre. Ce sont des films de festivals, des films d'auteurs essentiellement, mais aussi des films un peu plus grand public.
On va entendre la bande-annonce du film Les Engagés.
Quand je l'ai vu, il était assis juste là. Je voulais lui parler, j'attendais le bon moment.
J'ai un truc important à te dire.
C'était quoi ?
Mais les trans, ils sont pas comme nous, c'est un autre sujet.
Toi, tu préfères rester le petit con qui savait plus où se foutre parce que Claude portait une robe.
J'en ai vu des types se saboter, mais alors vous, franchement ?
La mairie a ordonné une fermeture administrative du local !
Mais ça va durer quoi ? Une semaine ?
Ils ont le droit d'être en colère ! Si t'es pas capable de comprendre ça, ta marche vaut rien.
Alors unissez-vous et venez vous battre avec nous, bordel !
La question qu'on pose à tous les gens qui font votre métier, je dis tous les gens, ils ne sont pas si nombreux que ça. Est-ce que vous appréhendez l'arrivée de Disney Plus qui est annoncée en France le 24 mars? Ça fait encore une plateforme de plus, même si on est plus vers Rox et Rookie que vers les films d'horreur. Est-ce que vous les craignez? Est-ce que vous craignez leur arrivée?
Non, on ne les craint pas du tout. En fait, on est même presque reconnaissant de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils éduquent le marché d'une certaine manière. Ils éduquent les consommateurs, ils éduquent les téléspectateurs à changer leurs habitudes. Et nous, on est dans leur sillage en réalité. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens très 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 longtemps ce qu'on fait, parce que ils préparent le terrain pour nous. Donc
qu'est-ce qu'une plateforme, pourquoi se désolidariser de la télévision linéaire,
comment compléter sa consommation de la télévision linéaire avec ce genre d'usage. Et puis nous, on pense surtout que l'offre de contenu qu'on propose a absolument rien à voir avec ce qu'ils font, et que on s'adresse à un public certes plus petit, mais beaucoup plus engagé, beaucoup plus passionné, beaucoup plus mobilisé que les offres très très grand public dont on parle là.
J'y pense à l'instant, c'est ma question qui est opportuniste. Est-ce que vous n'avez pas un très bon coup à jouer avec la crise du coronavirus? C'est-à-dire que les gens qui sont fans de vos films, mais il n'y a plus de salles qui les diffusent parce que les gens répugnent à aller dans des lieux publics et vont plutôt s'abonner et aller chez vous.
En tout cas, c'est un bon moment pour lancer une plateforme au moment où les gens vont être un petit peu confinés à domicile. Il y a d'ailleurs... on voit bien que en ce moment, la bourse se subit un revers assez historique, mais il y a quand même des actions qui résistent, notamment l'action de Netflix. Ouais. Ils ont même fait aux États-Unis un Stay at Home Index, c'est-à-dire un index des actions des entreprises qui font que les gens restent à la maison et qu'ils vont consommer. Donc nous, on est un peu dans ce sillage-là, effectivement.
C'est passionnant. Et l'arrivée de Salto, la plateforme de streaming qui est commune au groupe TF1, au groupe M6 et à France Télévisions, qui va être lancée le 3 juin, ça vous fait un petit peu peur?
Non, ça ne nous fait pas peur. Nous, on pense qu'il y a plein de segments qui vont être adressés. Salto, ils sont sur un type de contenu qui sont les séries et les fictions qui sont issues des antennes de ces chaînes-là. Ils ont beaucoup de productions françaises. C'est ni Netflix, ni nous.
Mais alors, c'est qui vos concurrents? Parce que vous craignez personne? Ou alors, est-ce que c'est un langage de chef d'entreprise?
Non. On pense qu'on défriche le marché. Je pense qu'on est des innovateurs et qu'on va sur des terrains sur lesquels il n'y a pas encore beaucoup de monde. Ça ne sera peut-être pas exactement la même chose dans 2 ou 3 ans. Mais pour l'instant, le terrain est un peu vierge, en fait.
Filmotv,
on adore ce qu'ils font, on trouve ça génial. Ils sont sur un modèle beaucoup plus généraliste que nous. Ils ont des films de major, beaucoup de films américains. Et c'est là aussi un super succès. Mais on pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà,
est-ce que vous faites des abonnements groupés de toutes vos offres entre Spicy, Queer Screen et maintenant Shadows? Ou est-ce qu'il faut s'abonner plateforme par plateforme?
Alors, il faut s'abonner plateforme par plateforme, pas parce qu'on veut obliger les gens, mais on pense que ça ne s'adresse pas exactement aux mêmes gens et qu'en réalité... l'abonné qui est intéressé par nos films LGBT, nos films d'horreur et les reportages et documentaires de Spicy, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment...
C'est
des niches dans la niche.
D'autres projets à venir?
Plein d'autres projets à venir. On veut lancer une dizaine ou une quinzaine de sites et de services de ce type-là dans diverses directions, dans le sport, dans la musique, dans le spectacle vivant, dans le théâtre. Donc on a beaucoup, beaucoup de projets à l'étude. Là, on est très occupé cette année, en 2020, avec déjà ces trois verticales-là. Ouais. Mais on va être très créatif dans les années qui viennent.
Vous êtes combien?
On est 25 à
D'accord.
Paris.
Voilà, c'est juste pour savoir l'entreprise que c'était. Merci beaucoup, Julien. Merci. Vin Ramanori. Vous reconnaissez la musique?
Absolument.
L'exorciste. Musique de
Michael Field.
Michael Field, c'est tiré de Tubular Bells.
Exactement.
Président de VOD Factory, non pas Michael Field, mais Julien Vin Ramanori, d'avoir été avec nous ce matin. Shadows, la première plateforme de screaming humour, j'aime beaucoup cette petite vanne, est disponible à partir d'aujourd'hui. Elle n'est pas de moi.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Denis Brognard.
Bonjour Denis Brognard.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le présentateur de Koh-Lanta qui entame sa 26e saison. C'est sur 19 ans, parce qu'il y a parfois 2 saisons par an. Ça marche toujours aussi bien?
Mais écoutez, en termes d'audience, ça marche bien. En termes de satisfaction du public, sur ce que je lis sur les réseaux sociaux, ce que j'entends dans la rue, je crois que les gens sont très contents de ce début d'Île des Héros.
En termes d'audience, ça fait combien?
On est pratiquement à 6 millions de téléspectateurs, un peu plus de 5,5 millions, avec un replay. Et c'est important parce que la consommation de la télévision est de plus en plus différée. Et on a quand même, sur les 2 premiers épisodes, 1 million de gens qui regardent en replay, ce qui est considérable. C'est 20% quasiment de l'audience en replay. Mais voilà, je pense que n'importe quel producteur, n'importe quel patron de chaîne rêverait d'avoir tous les soirs une émission avec une telle audience.
Il y a même des gens qui aimeraient bien avoir une émission qui fait déjà 1 million, qui fait en replay, qui fait en linéaire le score que vous faites en replay. Ça marche tellement bien que vous vous êtes invité à l'insu de votre plein gré au débat des municipales à Paris. C'était mardi soir sur France 3.
On n'est pas à Koh-Lanta, là. C'est pas des alliances entre vous. Et à qui vous donnez le collier d'immunité?
On a reconnu la voix de Rachida Dati. Ouais,
elle parlait à Agnès Buzyn.
Voilà. Et je citerai les autres candidats comme nous oblige le CSA. Ils ont bien raison. Vous avez répondu à Rachida Dati.
Non, enfin, j'ai répondu. J'ai surtout répondu à ceux qui me l'avaient envoyé cette séquence-là. Et je trouvais ça assez drôle. Vous savez, quand une émission ou un nom d'émission ou un principe rentre dans le langage courant et dans les habitudes des gens, que ce soit les politiques ou vous avez déjà vu dans la rue quelqu'un qui prend une grosse averse, dit c'était Koh-Lanta. Ouais. Ben c'est un peu ça, et ça m'a amusé parce que voilà, je ne savais pas et je ne pensais pas pouvoir compter Rachida Dati parmi les connaisseurs de Koh-Lanta. Je ne veux pas dire ceux qui le regardent régulièrement.
Il y a aussi Anne Hidalgo, Cédric Villani, David Belliard, Daniel Simonet, Pierre Liski et Marcel Campion. Alors, la nouvelle saison a démarré, ce soir le troisième numéro, Koh-Lanta, l'île des héros. Je l'ai dit, sur les 26 éditions de Koh-Lanta, c'est la 6e édition spéciale de l'émission. C'est quoi une édition spéciale et c'est quoi le principe de cette saison?
Une édition spéciale, c'est une édition qui fait revenir d'anciens candidats charismatiques pour une raison bien précise. Et cette année...
La raison bien précise, c'est de faire de l'audience.
Non, c'est de faire une émission un peu différente. C'est-à-dire là, cette année, c'est une émission spéciale, j'ai envie de dire. Parce que pour la première fois dans l'histoire, depuis 19 ans, on a décidé de mettre ensemble à la fois des nouveaux, 14 au total, et puis des anciens, 5, qui n'ont pas gagné, mais qui font partie vraiment des personnages emblématiques de l'émission.
Bande annonce.
Koh-Lanta, retour sur l'île des héros pour un combat décisif.
Trois héros pour deux places dans l'aventure. Go !
De Sarah, Claude ou Jessica, qui sera éliminé ?
Je lâche rien, jamais.
Il est trop tôt pour rentrer en France.
Maintenant, ça passe ou ça casse.
Qui rejoindra Moussa et Théoura dans chacune des tribus ?
Vas-y !
Sur les camps jaunes et rouges, la faim se fait déjà sentir.
Moi, tous les jours, c'est de la survie complète.
Arrête, Benoît, avec ça.
C'est difficile pour tout le monde.
Plus que jamais, les nouveaux aventuriers ont besoin des héros.
Quand même pas, c'est dur. Quand même pas, c'est pas facile.
Je peux faire le maximum pour passer ce cap.
Mélanger les anciens et les novices, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a généré comme avantage et aussi comme conflit? Parce que dans l'épisode 3 que j'ai eu la chance de voir, ça fight justement entre les anciens et les nouveaux, les anciens et les modernes, si j'ose dire.
En gros, il y a un choc des cultures parce que vous avez des nouveaux qui arrivent et qui sont totalement vierges d'expérience et qui ne savent pas en plus au départ. Ils sont à 14, ils sont persuadés qu'ils vont continuer à 14 et qu'il n'y a pas d'anciens. Et les anciens de leur côté, eux, ils ne savent pas non plus qu'ils vont rejoindre des nouveaux. Ils sont persuadés qu'il y a peut-être un autre groupe de 5 qui a encore un autre groupe d'anciens, ça va être une compétition d'anciens. Donc évidemment, les nouveaux, ils arrivent avec la fraîcheur de la découverte, et puis les anciens, ils se remémorent ce qui s'est passé, mais il ne faut pas oublier que ces anciens-là, ils n'ont jamais gagné, même s'ils ont été très forts, je pense à Claude, à Théoura, qui ont gagné un nombre incroyable d'épreuves individuelles, mais ils n'ont pas gagné Koh-Lanta. Donc il leur manque peut-être aussi un petit quelque chose, et ce qui est intéressant, et vous le verrez ce soir, puisque les deux derniers héros rejoindront les équipes de novices, eh bien, c'est qu'il va falloir justement trouver le savant dosage pour les nouveaux, eh bien, d'intégrer les anciens, et pour les anciens, d'arriver sans avoir trop la grosse tête et sans dire, eh, moi je sais, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire.
Non mais j'ai vu l'épisode de ce soir, mais j'ai pas vu les suivants, donc ça continue à se bastonner tout au long.
Ça continue à se bastonner, ça continue, si vous voulez, l'objectif c'est que les anciens fassent profiter de leur expérience tout en étant quand même pas trop sur le devant de la scène et que les nouveaux puissent se servir de ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a des nouveaux pour qui voir ces anciens arriver, c'était comme si un fanat de football voyait arriver Zidane devant lui. Quand Sam, par exemple, voit arriver Théoura et Claude face à lui sur la plage en avançant, en marchant, il se dit mais c'est dingue. C'est-à-dire les mecs qui m'ont fait rêver, les mecs qui m'ont vraiment permis de m'inscrire à Koh-Lanta, ils sont là avec moi, je vais vivre avec eux, c'est un rêve éveillé.
Puisque vous en parlez, combien de candidats que vous choisissez, combien de candidats à la candidature?
Il y en a plusieurs dizaines de milliers, mais vous savez, ça dépend de la fenêtre de tir. Plus vous ouvrez longtemps le casting, plus il y a de gens, mais globalement, il y a entre 20 et 25 000 candidatures.
Mais comment vous les choisissez? Hier, il y en avait un qui avait peur de l'eau. Non mais c'est pas possible, vous le faites exprès. Non mais c'est comme dans Pékin Express, il faut exprès prendre les plus nuls en anglais.
Philippe, on essaye de prendre des gens qui sont représentatifs de la population française. Il n'y a pas que des champions de natation. Non mais il a peur de l'eau, il sait nager 50 mètres. Vous vous doutez bien que dans les tests que nous faisons passer au moment du casting, on demande aux nageurs de se mettre dans l'eau, de nager 50 mètres sans aucune aide extérieure. Sauf que quand vous vous retrouvez dans l'océan, dans une épreuve, le stress de l'élimination, qui est en plus de la houle, du vent, et puis qu'il faut aller vite parce que vos coéquipiers vous encouragent ou vous invectivent même, ça change un petit peu la donne. Mais ce qui est fort chez Ahmad, c'est qu'il a eu des problèmes, il provoque l'abandon de son équipe, mais derrière, il est suffisamment fort pour ne pas être éliminé, alors que normalement, il était le maillon faible et il avait de forts risques.
Mais
de
racontez
partir.
Pas tout, mais quand même, mais je non, mais te ça, dis, il... Hamad, tu as peur de l'eau.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Notre invité média est Denis Brognard pour nous parler de la 26e saison de Koh-Lanta avec l'île des héros, la 6e édition spéciale de l'émission.
Vous reconnaissez ?
Ah bah écoutez, c'est la musique qui me berce depuis 20 ans.
Mais non, c'est le nouveau générique.
Oui, c'est le nouveau, mais enfin...
Ah bah bon, voilà, ouais, c'était non, ça. Enfin,
oui,
ah
bien sûr. Mais
blind test.
Avec quand même cette rythmique que nous avons gardée.
Ah bah oui, c'est pas des chiffres et des lettres, c'est Koh-Lanta. Quelque chose m'a frappé, il y a Sarah qui elle fait partie des héros, ça veut dire des gens qui ont déjà fait l'émission et qui redéboulent dans cette saison 26. Et vous le dites, vous avez raison, c'est la seule candidate femme à avoir réussi à faire du feu.
Ouais.
Mais comment est-ce possible? Je me suis dit, mais les féministes, ouais, les féministes vont bondir. Comment vous expliquez qu'il y ait une seule femme en 18 ans parce que... qui ait réussi à faire du feu alors que les hommes y arrivent?
Non, mais les hommes y arrivent.
Pas tous,
quelques
mais quand même.
Hommes y arrivent. Ouais. C'est de plus en plus fréquent parce que les gens maintenant préparent, travaillent chez eux avant de venir sur l'île. Mais vous savez, c'est peut-être que les hommes prennent l'initiative sur l'île en disant, hey, moi je veux faire du feu. C'est un peu un objectif masculin, c'est vrai, de faire du feu.
Attendez, vous voulez dire que c'est comme le samedi et le dimanche, c'est les mecs qui font le barbecue?
Il faut bien le reconnaître, mais Sarah, elle voulait absolument le faire. Mais Sarah, c'est aussi celle qui dit, il n'y a pas de fatigue qui soit, qui fait des pompes quand elle est stressée.
Ah mais non, justement.
Elle a un côté très mec dans sa façon de voir les choses, même si elle est par ailleurs très féminine.
On est contente, les féministes, vous entendez dire qu'elle est très mec. Et aussi, même façon, Jessica, la seule femme à avoir réussi à pêcher au harpon en 18 ans. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas une femme, plus d'une qui a réussi?
Alors, écoutez, c'est une bonne question, mais c'est vrai que le fusil harpon, déjà, je pense que dans la vraie vie, il y a plus de pêcheurs hommes avec le fusil harpon que de pêcheurs femmes, parce que c'est quand même quelque chose. C'est très engageant physiquement hein, quand il faut réarmer l'élastique du fusil harpon. C'est un peu compliqué, mais c'est marrant parce que Jessica et Sarah sont des fortes femmes qui elles sont arrivées en disant, moi, je veux essayer. Et quand elles disent « je veux essayer, je veux réussir ».
Je ne sais plus laquelle des deux, c'est Jessica ou Sarah qui gagne une épreuve.
Ouais.
La danse de la joie qu'elle fait, elle hurle et elle est tellement contente qu'elle se met à faire des pompes.
Mais c'est
je
ne
connais personne qui fait des pompes comme ça.
Sarah, quand elle est stressée, même dans sa vie de tous les jours, elle fait des pompes. Mais vous avez vu le physique de la dame un jour, tiens, ça serait sympa ça, Philippe. Je vais vous mettre tous les deux, on invitera Sarah, puis tous les deux là dans le studio, vous allez
vous
faire
rigolez,
des pompes.
Mais c'est une plaisanterie.
C'est une très bonne idée.
Vous me ridiculisez, mais je le dis tout de suite.
Philippe, mais vous êtes né pour faire des pompes.
Mais personne n'est né pour ça. Il y a toujours la dalle. Dans les invariants de Koh-Lanta, il y a toujours la dalle. Ils ont toujours faim.
J'aime bien, il y a toujours la dalle. Ouais. Mais oui, il y a toujours la dalle. Le but du jeu, c'est qu'ils soient autonomes. Et donc, qu'ils trouvent eux-mêmes à manger du manioc, du taro, qu'ils soient capables de pêcher.
Il y a un mec, mais il est tellement nullissime, j'ai jamais vu. Ils ont une dalle de chien. Il réussit à attraper un poisson.
Ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'il
le regarde. Et il regarde le poisson, il est au bord de l'eau. Et le poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il gigote, il se barre. Mais je lui dis, mais t'es benêt ou quoi? C'est pas possible.
Vous savez que c'est pas facile de pêcher avec les moyens du bord
je
comme
sais,
ça.
Je sais, mais
c'est
si moi facile, j'ai pas mangé Philippe. Depuis 3 jours et que je chope un poisson, je peux vous dire que je marche, je me mets à 20 mètres de l'eau pour être sûr qu'il se barre pas. Je me dis, mais quel idiot.
Et vous seriez un candidat incroyable, Philippe.
Bah, vous
quel marrer parce que vous êtes comme le téléspectateur classique qui
moyen,
pose des questions.
Moyen, voilà.
Mais non, mais moyen mais
évidemment, moi, je pose les questions que tout le monde se pose. Quels autres projets? Est-ce que tout est arrêté ou plein de choses sont en stand-by à cause du coronavirus?
Il y a plein de choses qui sont forcément en stand-by. Est-ce que
là,
c'est
chez vous. Alors déjà, il y a la F1.
Mais non, la Formule 1, bon, nous, vous savez qu'on a 4 Grands Prix. Notre objectif, notre premier Grand Prix, ce sera Monaco.
D'accord.
Donc Monaco, c'est encore relativement loin. Est-ce qu'on sera sorti de cette crise sanitaire? Je ne le sais pas. Personne n'est capable de le dire. Ensuite, vous savez, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et encore moins celle de demain. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui sera annulé, ce qui sera reporté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de gros projets, et notamment Ninja Warrior, qui sont dans l'expectative. Parce qu'on tourne à Cannes, parce qu'on tourne en public, parce qu'on tourne en extérieur.
Vous deviez tourner quand, Ninja Warrior ?
On devait tourner ça d'ici quelques semaines. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, et vous doutez bien que c'est pas moi qui prends les décisions. Il y a des responsables de production qui
sont... Et dans
sont,
toutes les chaînes, et eux-mêmes, on peut rien dire, parce qu'eux-mêmes sont dans l'expectative. Vous travaillez tout le temps, vous avez 3 filles, Violette, Lydie, qui ont 14 ans, si je suis bien informé, Blanche, 12 ans. Comment vous allez faire tard lundi, quand elles iront plus au lycée ?
Eh bien, elles seront à la maison. Elles l'ont appris, puisqu'on a regardé le président de la République, toute la famille réunie hier soir. C'est marrant, les enfants, parce qu'au départ, mais on était tous comme ça. Il y a la satisfaction de dire ouais, on ne va pas à l'école, c'est un peu les vacances. Quand on leur a expliqué qu'il y aurait du télétravail et du télé-enseignement, c'était un peu plus difficile. Mais elles sont suffisamment grandes pour être autonomes.
Et qu'elles vont devoir subir leur père à la maison, parce que comme vous ne tournez pas, vous serez sur leur dos.
Non, mais attendez, mais moi je vais m'occuper, je vais essayer d'être le relais avec les professeurs, avec leur maman. Mais voilà, on va s'arranger. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour ceux qui ont de jeunes enfants et surtout pour les parents qui sont obligés d'aller au quotidien au travail et qui ne peuvent pas justement faire du télétravail à la maison.
Évidemment, Denis Brognard, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Je rappelle, Koh-Lanta, c'est ce soir sur TF1, c'est l'épisode 3. Évidemment, les autres sont évidemment à voir en replay.
Entraînez-vous, je vous emmène pour la prochaine saison.
Mais jamais de la vie. Mais non, pas chier, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Si j'ai un harpon, bim, je vous tire dans les fesses.
Vous allez être tout bronzé, vous allez être tout
beau. Comment
Si je suis dans votre équipe. J'avais pas pensé à ça. Bah oui. En tout cas, pas de pompe.
Allez, on poursuit avec les digressions des rats d'auteur. On retrouve le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Rien.
Gilles, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 mars.
J'ai failli ne pas venir. Je suis assez superstitieux.
Vous avez de la chance ? Vous avez de la malchance le vendredi ?
On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Ah, parce que vous savez ce qui va se passer le jeudi 22 février.
Je suis en plus en confiance.
Et le 32 février ?
32 février, je reste au lit.
C'est quand même dommage. Il n'y a jamais un truc pertinent. Vous allez jouer à un jeu, gratter un truc au loto.
Peut-être que j'irai taper l'euro-million. Ça dépend de la cagnotte. À 8 millions, je bouge pas, mais 32, oui.
Ça démarre à 15, la cagnotte.
Ah tiens.
Donc vous ne jouez jamais à l'euro-million, en fait.
Vous pouvez dire non, hein, c'est pas grave. Hein. Si, si. Quand il y a des cagnottes à 400 millions, là, j'y vais de mon écho.
Ça ne va jamais à 400 millions.
Si.
Non, jamais. C'est un plafond de 184 millions. Donc en fait, au plafond et au plancher, vous êtes viré. Donc à mon avis, vous confondez avec la pétanque ou le jeu de fléchettes, mais qui ne rapporte pas autant.
Ah bon, ça dépend. Hein.
Oui, enfin, tout dépend de tout le temps.
Très confus ce que vous dites.
Je vais la refaire simplement. Est-ce que le vendredi 13 mars, c'est un jour comme un autre ?
Ça fait une demi-heure qu'on en parle, le vendredi 13.
Yann Arthus Bertrand, il est né un 13 mars.
Oui, oui, très bien.
Vous n'avez pas du tout envie de parler de ce photographe.
Écoutez, je sais pas quoi en dire, il fait des très belles photos, celui que je vous dis.
Vous avez dit ça, et ce qui n'est pas très passionnant.
On connaît ses photos.
C'est-à-dire qu'il est photographe, donc forcément, je vous pose une question sur ses photos. Vous aimez les chanteurs, vous aimez les chansons, vous aimez la vie, vous aimez le rythme. Est-ce que vous aimez les notes ? Est-ce que vous êtes musicien ? Est-ce que vous avez l'oreille musicale ? Est-ce que vous m'écoutez ?
Est-ce que je suis jazzy ?
Voilà, je cherchais ce mot-là. Est-ce que vous êtes jazzy, Gilles ?
Ah oui, à fond.
C'est pas du tout de jazz dont je voulais vous parler, c'est de Jean Ferrat.
Oui, Jean Ferrat, très bien.
Chaque fois, vous démarrez votre phrase par oui, très bien.
Non, mais Jean Ferrat.
Comme si je vous disais, tiens, vous avez perdu votre chaussure. Oui, très bien.
Jean Ferrat, oui, très bien.
On est sur du oui, très bien.
La moustache.
Ferrat, il a passé 50 ans à chanter et vous, ça se résume à la moustache. Qu'il avait coupé, non, à un moment donné.
Ah, j'étais pas au courant.
Ou alors c'est Cabrel qui a coupé sa moustache.
Ça fait partie de l'époque de l'excellente chanson française.
Oui, ça fait partie d'une époque. C'est comme si je vous parlais de la Goulue. Elle fait partie d'une époque.
Quelle est la chanson la plus célèbre de Jean Ferrat ?
La femme et l'avenir de l'homme.
La femme et l'avenir de l'homme. C'était sa voix, vous avez raison.
Non, ça c'est la mienne, mais
enfin c'était à peu près ça.
La sienne, elle s'est tue.
Elle s'est tue ?
Il est mort, donc sa voix s'est tue.
Ah, il est mort il y a pas longtemps.
Mais si, il y a 10 ans.
Déjà.
Il avait 80 ans.
Il est mort à 80 ans.
En calcul, vous débrouillez un petit peu ou pas ? 2010 moins 1930, ça fait combien ? 80 ans. Il est mort Jean Ferrat, ouais. Il est pas né Jean Ferrat. On est d'un nom et on meurt d'un autre.
Il est né quoi ?
Jean Tenenbaum.
Pourquoi il a pris Ferrat ?
Parce qu'il est mort. Et ce vendredi est mort aussi. À demain, Gilles. Enfin non, pas demain, demain c'est samedi.
C'est le week-end.
À lundi, Gilles.
À lundi, Stéphane.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus. Et vous les retrouvez, vous l'avez entendu lundi, 9h55.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec le comédien Benjamin Lavergne. Il est à l'affiche des fourberies de Scapin avec la troupe de la Comédie Française. Et il était le seul comédien nommé au dernier César pour un rôle comique. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu, évidemment. Et puis dans les indispensables, un jeu vidéo avec Clément Le Saffre, très poétique. Et puis dans les indispensables, musique classique avec le spectacle Looking for Beethoven. Et ce sera avec une petite nouvelle dans cette émission, Lord d'Autriche. We'll be right back.